Sa libération intervient 2 jours après celle de Clotilde Reiss, mais le Quai d'Orsay a démenti une nouvelle fois tout lien entre les deux affaires. Les vacances sous la tente ou dans la caravane ont la cote. Le succès des campings devrait se confirmer cet été avec une fréquentation en hausse de 4 à 5%. C'est ce que prévoit la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Et selon une enquête Strategy One, le profil des campeurs est bien loin des clichés véhiculés par le film Camping. Plutôt jeune, pas nécessairement urbain, le campeur type appartient dans un tiers des cas à une catégorie socio-professionnelle supérieure.
France Inter, partenaire du Festival Musique Métisse à Angoulême sur l'île de Bourgine du 21 au 23 mai. 3 jours de concerts, 30 groupes. Youssoundour, Salif Keita, Angélique Kidjo, Carlinhos Brown, Mahmoud Ahmed, les tambours du Burundi. Retrouvez-les le 23 mai dans l'Afrique Enchantée à 17h. Musique Métisse à Angoulême avec la Charente Libre et France Inter. Renseignements, franceinter.com.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros. Aujourd'hui dans la Vienne, à Lésigny, à 18h30. Et demain, en Indre-et-Loire, à Chinon, également à 18h30. À très bientôt.
France Inter. La différence.
Il est 15h04, l'heure de retrouver Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour. J'étais bien fier hier dimanche de participer à ce contre-rassemblement de citoyens résistants sur le plateau des Glières. J'y suis allé donc en lisant cette information dans le journal Fakir. Qui nous communiquait évidemment cet événement avec une intervention de François Ruffin. Et je me suis senti à ma place. Vraiment, j'étais très très contente. Il faisait très très froid, il y avait même de la neige. Mais d'avoir à la tribune toutes ces personnes-là qui sont venues nous rappeler toutes ces heures de l'histoire et aussi nous rappeler aussi quand même que ce Conseil national de la résistance a créé la sécurité sociale, la liberté, l'expression, etc., etc., c'était véritablement grandiose.
Salut Daniel, c'est les anesthésistes qui sont en grève aujourd'hui. On vient de décider de bloquer la gare Montparnasse parce que Roselyne Bachelot a décidé de ne pas nous recevoir au ministère aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour que tu puisses passer ce message dans le répondeur du mardi 18 mai 2010. Pour les infirmiers anesthésistes, merci Daniel, bonne journée.
Salut les AMG, la planète va bientôt se mettre à bouillir, il n'y a plus que pétrole, on veut du bio, on veut du renouvelable, c'est la crise, et c'est pas demain que ça va changer. Pourtant, on n'a pas envie de revenir à la bougie, surtout pour se chauffer. Et dans ce contexte-là de Grenelle avorté en crise financière, où se place le nucléaire? Est-ce une réelle alternative au pétrole? Ou bien une bombe à retardement manipulée par des fous cupides? Et puis d'abord, quels sont les risques du nucléaire, vraiment? À ton choix de toute façon, si on pense notamment aux applications médicales, ce sont quelques questions, quelques-unes des nombreuses questions dont on va se triturer l'esprit avec vous au prochain repère de Nantes, ce vendredi 21 mai à 19h19, au Méliès. T'as vu le nouveau service du Pôle emploi, là? Le nouveau service téléphonique. C'est pour les employeurs, pour savoir combien doivent payer leurs employés. Selon l'employeur cherché, selon la nouvelle embauche, le statut, la fonction, la taille de l'entreprise, Pôle emploi leur donne le salaire, une fourchette de salaire minimum, maximum, pour savoir combien ils doivent payer leur futur employé. C'est pour ça que c'est toujours occupé à Pôle emploi, parce qu'il faut qu'ils renseignent les patrons aussi.
Oui, ami Avray du Café Repère du Havre. L'enfermement des étrangers en Europe et au-delà, ça sera le thème de la rencontre de mercredi prochain, mercredi 19, à 18h30 au Café Le Kangourou. Cette rencontre sera animée par un représentant de la ZETI. Merci Daniel et puis bon courage à toi et à toute l'équipe.
Oui, bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe, bonjour les EMG. J'appelais en réaction à la série d'émissions sur le Japon. J'ai moi-même été au Japon avec un ami quelques semaines et j'ai eu plusieurs observations qui, mises en commun, m'ont fait prendre conscience d'une certaine chose. Alors, je vais être assez rapide. La première, c'est ton émission qui m'y a fait penser, les cybercafés, là, le webcafé, où on pouvait dormir, et celui que j'ai vu, moi, dans une ville à Kyoto. Donc, j'y rentre avec mon ami. Pendant qu'il surfe sur Internet, je regarde un petit peu les magazines à disposition, et je me rends compte que c'est pratiquement tout du porno japonais, manga porno. Donc, tout de suite, on regarde avec un œil un peu plus délicat les papiers dans les corbeilles, on touche la souris et le clavier avec un peu plus de retenue. Ça c'est une chose, hein, comme ça. Deuxième chose, les distributeurs automatiques dans la rue. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué ou mentionné dans une émission, moi ce qui m'a assez frappé c'est que dans la rue, tous les 100 mètres, et j'exagère à peine, il y a des distributeurs qui vendent un peu tout et n'importe quoi. Ça va de la nourriture froide, chaude, boisson froide, chaude, ustensiles de tous les jours, cigarettes, alcool, et qui marchent, la plupart d'entre eux fonctionnent. Donc ça c'est une deuxième chose. Et la dernière observation, c'est les capsules hôtels. Je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est des hôtels où au lieu de louer une chambre, on loue une petite capsule, donc il y a des murs avec des hublots, et à l'intérieur, il y a juste un lit, une petite télé imbriquée dans le mur, et c'est pour la nuit, quoi. Et bon, pour y aller, il faut se changer avant, faut être en espèce de robe, donc tout le monde se balade, c'est un peu comme dans un hôpital, avec ces capsules, ça fait un peu science-fiction. Et en fait, l'image globale qu'on en a quand on met tout ça bout à bout, c'est que bah tu peux manger dans la rue dans les distributeurs, dormir dans des capsules hôtels. Pour Internet et les besoins, on va dire, pressants des hormones dans les webcafés, en gros, bah c'est quoi? C'est la toile de fond, c'est une organisation de la précarité, quoi, en fait. Et c'est assez effrayant. Continuez bien, vos émissions sont géniales et portez-vous bien, ciao.
Bonjour monsieur Daniel Mermet, voilà, je vous appelle au sujet de la déclaration de Moscovici ce matin, qui a dit que Clotilde a été emprisonnée dans des conditions horribles. Mais ce monsieur Moscovici n'a eu aucune pensée pour les 11 000 Palestiniens détenus en Israël. Sans commentaire.
Oui, monsieur Mermet, bonjour. Vous venez nous apprendre ce qu'on savait déjà, c'est que monsieur Chomsky n'a pas pu rentrer en Judée-Samarie, n'est-ce pas? Ben écoutez, il lui reste une solution, hein, c'est les tunnels de contrebande de vos amis du Hamas. Vous connaissez le Hamas, vous êtes bien branchés sur ce genre de tribus, n'est-ce pas? Alors voilà, il lui reste les tunnels, il a qu'à passer avec les armes, la drogue et toute la contrebande. Voilà, merci monsieur Mermet, continuez à baver comme vous le faites, c'est très bien.
Bon ben voilà un message encourageant et qui évoque ce dont nous parlions hier. Comment Noam Chomsky qui s'est présenté à la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie, frontière contrôlée par les autorités israéliennes, a été refoulé, n'a pas pu entrer en Cisjordanie où il avait pour projet de donner une série de conférences et de faire des rencontres avec un certain nombre de personnalités de Cisjordanie, du Judée-Samarie, si vous voulez. Voilà, ça n'a pas pu se faire, mais néanmoins, depuis Amman, Chomsky donne des conférences qu'il devait donner, qui est diffusée en Cisjordanie par vidéo conférence par un système de vidéo. À ce sujet, je vous signale un petit livre qui vient de sortir de Chomsky, de Noam Chomsky, qui est intitulé « Pour une éducation humaniste ». Voilà, si ce dernier auditeur qui a laissé ce message me donne ses coordonnées, je lui en enverrai volontiers un exemplaire pour une éducation humaniste. Et c'est un entretien entre Normand Baillargeon, que vous connaissez, et Noam Chomsky, c'est aux éditions de Lerne. Alors on continue notre balade au Japon. Bravo, bien vu, évidemment, l'organisation de la précarité, c'est une industrie comme une autre. Il y a du fric à se faire avec la précarité. Et effectivement, ces fameux hôtels capsules qui ne sont pas nouveaux, et puis les cyber-réfugiés dont nous avons parlé hier, et ces modes de vie dont la précarité est de plus en plus grande, l'émiettement du travail ou de l'absence ou de la disparition du travail. Mais enfin, cette précarité ne date pas d'hier. Cette précarité ne date pas d'hier et on va l'évoquer aujourd'hui en partant d'un livre de Satoshi Kamata. Vous vous souvenez, on l'a rencontré au début de ses reportages quand nous sommes arrivés à Tokyo. On s'est baladé sur ce canal avec les pétales de cerisier qui nous tombaient dessus. C'était très beau, très agréable. Et Satoshi Kamata évoquait ce qu'est ce printemps et ces pétales de cerisier pour les Japonais. Mais il est aussi l'auteur d'un bouquin tout à fait remarquable qui s'appelle Toyota, l'usine du désespoir, qui a été traduit dans nombreuses langues, dont en français il y a quelques années. En fait, c'est un livre qu'il a écrit au début des années 70, 72 ou 73, après avoir travaillé chez Toyota, dans l'usine Toyota de cette ville qui s'appelle Toyota. Et c'est cette expérience au travail qu'il relate dans ce bouquin. On dirait un livre écrit hier. Et il parle non pas à l'époque des précaires, mais des temporaires. Ceux qui travaillent de façon temporaire. Et c'est exactement le même système d'exploitation. Ce qui faisait l'admiration au temps du miracle japonais, c'était la docilité, le côté consensuel des Japonais partout en J'avouais, pendant ce temps-là, les Japonais travaillent. Les Japonais étaient travailleurs. C'était pas quelqu'un de bagarreur comme le français, l'ouvrier français notamment. On va voir que c'était pas tellement vrai. Il y avait ce spectre de la précarité déjà, et on va voir à travers cette visite chez Toyota que les choses se sont peut-être aggravées, mais que la fameuse docilité japonaise, le sens de la discipline n'est pas quelque chose de lié à je ne sais quel gène japonais, c'est simplement la trouille, la discipline et une certaine, effectivement aussi, un certain endoctrinement des salariés. Satoshi Kamata, dans son bouquin, évoque une pub de l'époque, du début des années 70 au Japon, qui disait « Expédions dans le monde entier nos voitures bien-aimées ». Voilà, c'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Voilà, je viens de voir une émission formidable avec François-Olivier Gilbert, ça devait s'appeler, non, je sais même pas comment ça s'appelait, avec Eric Orsena, Pascal Boniface, Régis Debray et le quatrième, Jean-François Kahn, bien sûr. Comment aurais-je pu oublier? Et il y a eu un truc formidable à un moment, il parlait de la crise grecque. François Gilbert, qui s'est déclaré neutre juste avant, a déclaré comme ça d'un ton... d'un seul coup, quoi. Il fallait voter oui au référendum. Voilà. Donc, c'est notre faute, quoi. Voilà. Donc, lordon. Voilà. Lordon président, lordon sur là-bas, lordon maintenant. Merci.
Salut à tous. Le repère de Verdun dans la Meuse se tient toujours à l'Estaminet, le troisième mercredi de chaque mois. Donc on vous attend nombreux à l'Estaminet à partir de 20h, mercredi soir.
Il y a actuellement 50 producteurs soutenus par la Confédération paysanne de l'Aude, qui se sont introduits à la DSV, donc la Direction départementale des services sanitaires, suite à la manifestation du 22 avril, où ils avaient fait part de certaines revendications, comme l'État, la préfecture est restée muette depuis, donc ils ont décidé de prendre en otage, enfin, le directeur de la DSV. Donc, ils se sont introduits, il y a une cinquantaine de producteurs accompagnés par les membres de la Confédération paysanne. Éventuellement, je peux laisser les coordonnées de Jean-François Cornil, qui est animateur de la Conf Audoise, qui est le 06 71 72 41 37. Merci infiniment de faire passer ce message afin que tous les Audois consommateurs, enfin producteurs solidaires qui se sentent concernés puissent aller le soutenir donc cet après-midi à la cité administrative de Carcassonne. Voilà, on aimerait que cette action puisse faire boule de neige et que les autres départements réagissent de la même manière. C'est un acte pacifique, non violent. Ils sont en négociation. Merci, au revoir.
Salut Daniel, salut les AMG. Le prochain rendez-vous du Café Repère d'Albertville aura lieu ce mercredi 19 mai. Le thème abordé portera sur les intermittents du spectacle. Alors nous vous attendrons nombreux ce mercredi 19 mai, à partir de 19h au petit bar.
Bonjour à tous, ici Gaëtan de Strasbourg. On est la CREP, le collectif de réappropriation de l'espace public. Si vous vous souvenez, chers AMG, Daniel avait fait un reportage sur nous il y a un an ou deux, quand on avait organisé une semaine, ras les caméras. Et cette semaine, nous recommençons nos actions. Avec la semaine, démontons la vidéosurveillance, puisque rien n'y fait, quelle que soit la couleur de la majorité présidentielle et municipale. La municipale, c'est à Strasbourg, elle succombe aux caméras, blabla. Du coup, nos rues sont épiées par un réseau de caméras sans cesse démultipliées. Le sommet de l'OTAN à Strasbourg a récemment permis son extension à moindre frais. La semaine d'action commence ce soir, à 18h, place de l'Étoile, avec une visite guidée du réseau de vidéosurveillance de Strasbourg. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de la CREP, crep.strasbourg.free.fr. Ciao.
Bonjour, c'est Sylvie Tissot du collectif Les mots sont importants. Un petit bonjour pour signaler qu'on fête les 10 ans du collectif à la Maison Verte à Paris 18e, 127-129 rue Marcadet, le dimanche 23 mai, à 19h30, autour d'un film inédit et intitulé « Les mots sont importants ». Bienvenue à la Maison Verte, donc dimanche prochain.
ありがとうございました。お忘れ物のないようご注意ください。列車とホームの間は強く空いております。足元にご注意ください。
On voit des jeunes des gens avec un blouson que je présume être le blouson Toyota, le pantalon bleu-gris et la veste blanc cassé. Et ça doit être des jeunes stagiaires, il faut se mettre en rang. Hein.
Ah ouais.
Là, l'expression petit soldat s'illustre parfaitement.
Mais tu vois.
Ces jeunes. Ils ont des fondations, ils ont des activités à travers le monde entier. Tiens, j'étais sûr. Pour l'environnement, pour les handicapés, la sécurité routière.
Ils vont se Toyota en Chine.
Contre le sida. Pour sauver le thon rouge. Ah non.
Par contre, pour aider les tortues des Galapagos.
Ah non, vraiment, alors, ils sont engagés. Hein,
Ils ont même une fondation pour l'alphabétisation aux États-Unis.
Oh, tu te rends compte, les Haïtiens qui ne savent pas lire, dis donc. Ils ont du mal chez Toyota, on peut pas dire. La biotechnologie. Hey, qu'est-ce que c'est la biotechnologie, d'après toi? C'est Toyota. Et l'environnement, c'est Toyota. Construction de maisons, c'est Toyota. Ils sont partout, Toyota. C'est impressionnant, une voiture de course.
Si vous voulez, vous pouvez essayer de
monter. Ah ouais, moi je vais bien essayer. Hein. Oh bah, c'est la première fois que je me mets dans une Formule 1, moi.
On aura vraiment tout fait. Hein. On est en train de monter dans une voiture de course maintenant. Oh, le petit volant ridicule.
C'est facile comme tout. Attends, il n'y a aucun mérite à faire des tours comme
ben
ça.
Ben ouais. Il fallait venir au Japon pour se rendre compte que ces pilotes de course sont des petits pois.
T'as vu, je fais bouger les roues de la Formule 1.
C'est Daniel Mermet avec Guy Venti, le Japon, sous un coin du kimono.
Flight number 2, arriving from New York.
Là, on est au musée Toyota à Toyota et on regarde comment on fabrique des Toyota. Ce qu'on comprend très rapidement, c'est que dans les différentes opérations, il n'y a pas un seul être humain. Tout est robotisé, tout est automatique. On n'a plus besoin des êtres humains pour fabriquer ça. Ah ! Une fille ! Elle était juste en train d'essuyer le bord de l'écran pour qu'on voit mieux les images, mais elle n'avait rien à voir avec la fabrication.
Maintenant, c'est que c'est la ligne de peinture environnemental friendly.
Alors ça, Toyota, ils sont numéro 1 en matière d'environnement. Hop là ! Schlaps ! Les bains de peinture, personne ne se baigne dedans, hein. Hop là, et voilà, c'est sec. Ah, il y a un gars là. Oups, il a un masque, mais on l'a reconnu. Hein. On est né à deux êtres humains.
Ouais.
Mais sinon, c'est entièrement... Là, c'est le séchage.
Là, c'est la peinture. Là,
là c'est un petit peu de peinture.
C'est beau parce que les robots qui font la peinture sont en plus gainés dans une espèce de tissu pour les protéger.
Ouais, magnifique.
Et tout est filmé en caméra subjective.
Ils sont en train de... Ils passent la main dessus pour voir les erreurs, regarde. Tu as vu ça? Ils caressent la voiture comme des bœufs de Kobe.
People friendly line, c'est-à-dire que c'est friendly pour les people, c'est amical pour les gens.
C'est pas.
Ah, on voit bien qu'il y a un petit coussin sous ses fesses pour travailler confortablement, c'est ça que ça veut dire.
Et il salit pas, il n'y a pas une tache de graisse, hein. Pas une tache d'huile. C'est les gants blancs, Toyota. Hop là. Toc.
Ah, quelqu'un conduit.
Ça y est, elle roule. Tac. Ça y est. Voilà la marque Toyota avec des gants blancs toujours. Et maintenant, la voiture en silence sort. Good thinking, good products, bonne conception, bon produit, et puis c'est fini.
Oh. toque no botão de escolha de bebida quente ou bebida gelada.
Ça va pas du tout cette musique pour Toyota. Ça va pas du tout. Ça irait si c'était une fabrique de casseroles. Une fabrique de moulins à légumes. Mais Toyota, c'est pas ça. Hein. Il faudrait une musique lisse, voyez, qui fait rêver, une nappe musicale, comme ça, qui nous embarque. Quelque chose de... qui fait rêver, quoi. Ça fait pas rêver du tout, cette musique. Ça correspond pas du tout à la vérité. Enfin, la vérité. Oui, la façon dont se présente Toyota, la plus grande entreprise automobile du monde. 9 millions de véhicules produits chaque année. Et 9 millions de véhicules rappelés cette année, dont 6 millions rien qu'aux États-Unis en raison de problèmes affectant les pédales d'accélération ou le système de freinage de plusieurs modèles. Vous le savez, vous avez vu la tête de Monsieur Toyoda, un des descendants de la glorieuse famille Toyota, venant dire « Je crains que le rythme auquel nous nous sommes développés ait pu être trop rapide ». Voilà ce qu'il a dit à Akio Toyoda, le patron de Toyota, devant le Congrès américain pour justifier ses rappels de véhicules. Ces phrases et ces rappels de véhicules ont entraîné une chute de l'action de Toyota à Tokyo, une chute considérable, également une chute des ventes dans pas mal de pays dans le monde. Il faut rappeler que Toyota, je le disais, est numéro 1 mondial, premier constructeur mondial depuis qu'il a détrôné General Motors en 2007. Et Toyota a réalisé un chiffre d'affaires de 263 milliards de dollars en 2009 et une perte nette de 4,3 milliards de dollars. Vous voyez, chiffre d'affaires 263, perte 4,3. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Pour la famille Toyota, ne vous inquiétez pas trop pour l'industrie japonaise quand même, pour les grands industriels japonais, ni pour les grands actionnaires de cette firme mondiale. Toyota est présent dans 53 pays et compte à travers le monde 320 000 salariés. Alors, on va en dire du mal, nous, de Toyota aujourd'hui. Toyota, l'usine du désespoir, on va voir que c'est toujours l'usine du désespoir. Comme dans le livre écrit en 1973 par Satoshi Kamata. Pourquoi vous dites si peu de mal de Toyota, notamment au Japon? Pour une raison très simple, c'est que Toyota est le premier annonceur, tout secteur confondu au Japon, avec 105 milliards de yens, pour son budget de pub. C'était le budget de 2006. 105 milliards de yens en 2006, environ 700 millions d'euros, ce qui fait de Toyota le premier annonceur. Pourquoi faire de la pub ? Pour vendre des voitures, bien évidemment, mais aussi pour acheter les journaux. Évidemment qu'on va pas dire de mal de quelqu'un qui... d'un annonceur, c'est quand même un minimum de courtoisie. C'est une des raisons pour lesquelles il y a si peu de critiques de Toyota et si peu de reportages sur les conditions de travail à l'intérieur de cette entreprise et surtout à l'extérieur de cette entreprise chez les sous-traitants de Toyota. C'est là que la précarité augmente encore, que le chômage sévit le plus. Et on va apprendre un mot d'ici à 16h. Beaucoup d'entre vous vont apprendre un mot, le mot carrochi. Carrochi, ce n'est pas sans écho avec ce qui se passe en France, avec ce qui s'est passé récemment chez Orange, vous vous souvenez ? Orange, et ben voilà, c'est très proche de ça. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Expédier dans le monde entier nos voitures bien aimées. Toyota, c'est pas seulement ce que vous savez, c'est aussi une ville qui s'appelle Toyota. Et cette ville est à nos pieds. On est sur un belvédère au-dessus de Toyota, donc. Et là, vous l'entendez peut-être, il y a un vent. Mais c'est un vent très agréable. C'est un vent printanier parce que c'est le printemps au Japon. Et c'est le printemps aussi à Toyota. Devant nous, il y a des cerisiers en fleurs. On pense pas du tout
Ah, la grande capitale de l'industrie automobile. En fait, si on regarde, on aperçoit sous nos pieds, à perte de vue, là où s'est développée cette incroyable industrie qui aujourd'hui, toujours, sous-traitant compris, emploie au moins 200 000 personnes directement sur la fabrication des automobiles, sans compter évidemment tous les emplois induits. Voilà. Alors dites-nous un petit peu avec qui on est.
Alors, moi, je suis 1937.
Tout d'abord, pour l'anecdote, je suis né en 1937, à la même année que l'entreprise Toyota.
Vous avez grandi avec Toyota et Toyota a grandi avec vous, autour de vous.
Après la fin de la guerre, la défaite japonaise, l'entreprise était toute petite, il n'y avait que 8000 personnes ici et l'entreprise Toyota n'avait pas fière allure. Pendant la guerre avec la Corée, il y avait eu beaucoup de problèmes et 1500 ouvriers avaient été licenciés ici. Il y a eu une grève de 100 jours.
Il y avait donc un mouvement social fort à cette époque-là.
Absolument. Et les ouvriers ont perdu. Et puis la guerre de Corée a permis à Toyota, qui faisait des camions à l'époque, de se développer.
Ah, d'accord.
Et après, bien sûr, à l'époque de la guerre du Vietnam, à nouveau aussi.
La guerre du Vietnam a assuré un développement à Toyota dans la fabrication des armements.
Des camions essentiellement. Des camions pour les armes. En tout cas, c'est après la fin de la guerre de Corée que Toyota a commencé à construire des voitures.
Et
donc la maison mère que vous voyez et l'usine principale que vous voyez était donc un endroit uniquement réservé à la construction des camions. Et c'est ensuite en 1958 qu'un peu plus loin. Là-bas, vous voyez une autre usine, et c'est là que, pour la première fois, Toyota a construit des voitures.
Eh oui, on oublie trop souvent ce que l'industrie doit, l'industrie automobile, entre autres, mais pas seulement, doit à la guerre. Les guerres sont très très favorables à ces grands développements industriel, tout notre 20e siècle a été fait de guerres qui ont favorisé, qui ont permis ces développements formidables. Nous voilà donc sur ce belvédère avec Toguchi Masachi qui est quoi donc ? Qui est journaliste à Toyota. Et qui a été longtemps conseiller municipal dans cette ville. Pourquoi lui ? Parce que c'est un ami de Kamata Satoshi, l'auteur du livre que j'ai évoqué, et aussi parce que c'est un homme qui parle librement, qui
ose dire des choses qui ne se disent pas dans cette ville. Il évoque par exemple succinctement les luttes sociales des années 50 chez Toyota. Et les luttes sociales au Japon étaient beaucoup plus nombreuses qu'on ne le suppose et qu'on ne le dit, mais elles ont été réprimées très très fermement et très violemment, parfois avec le soutien, le recours, s'il le fallait et s'il le faut toujours aujourd'hui, à nos amis, les Yakuza, les hommes de main, la mafia japonaise, qui est toujours prête à rendre service à ses amis patrons. Donc voilà où a été inventé le toyotisme qui faisait, il y a encore peu, mais encore sans doute beaucoup, l'admiration des grands industriels, des grands DRH, parce que le toyotisme, c'est pas le fordisme. Le fordisme, oh non, c'est le travail à la chaîne, c'est l'horreur, vous voyez, c'est Chaplin, voilà le fordisme. Tandis que le toyotisme fait appel à l'initiative personnelle, à l'engagement du salarié, à la motivation du salarié, etc. En fait, on est tout simplement passé du fordisme au toyotisme, de seulement le corps, avec le fordisme, au toyotisme qui est corps et âme. Corps et âme, corvéable, corps et âme, à merci. C'est ce que raconte Kamata dans son livre, et c'est ce que disent aujourd'hui les salariés pour ceux qui prennent le risque de parler. On continue avec Toguchi Masashi.
À l'époque, quand j'étais petit, que ce soit les familles d'ouvriers comme les patrons, les cols blancs, tout le monde habitait dans la même résidence. Donc, le fils du patron, comme le fils de l'ouvrier, on allait ensemble à la même école primaire.
C'est toujours le cas aujourd'hui ou c'est, ça a changé ou c'est en train de changer?
Alors, maintenant, tout le monde,
ça a complètement changé puisque désormais il n'y a plus que des cols blancs pratiquement chez Toyota et les ouvriers ne sont plus Toyota.
Alors on est Toyota no shain wa seikatsu ga yūfuku desu. Toyota no shain wa dakara kubi o kirareru koto mo arimasen. Elite desu. Soe de gizusha de shiji kari no noku ga aru.
Le personnel Toyota, c'est l'élite. Ce sont des gens qui travaillent, qui réfléchissent.
Ce sont des cols blancs.
Mais ce ne sont plus des ouvriers. Et puis, non seulement ils sont extrêmement bien rémunérés, et ils ont la sécurité de l'emploi à vie, ils ne seront jamais licenciés. En revanche, ceux qui sont vraiment à plaindre, ce sont les ouvriers qui travaillent chez les sous-traitants, voire chez les sous-traitants de sous-traitants, qui eux sont les réelles personnes qui fabriquent les voitures. On les licencie très facilement.
Ce sont des précaires.
Quand les voitures ne se vendent pas. Les personnes que vous voyez qui habitent dans les maisons aux alentours, ici, que vous pouvez voir, n'ont pas subi le choc Toyota, comme on l'appelle. Ce sont d'abord les Brésiliens, les travailleurs étrangers qui, eux, habitaient pas ici à nos pieds, mais bien plus loin, d'ailleurs, qui ont été renvoyés pour la plupart. Ce sont d'abord eux qui ont subi les premières conséquences.
On va peut-être bouger, non ? C'est incroyable parce que on est en ce fond dans cette tempête printanière là. Il faut dire que quoi, sur presque 360 degrés du paysage, c'est Toyota. C'est le paysage Toyota, que ce soit les usines, que ce soit les habitations. Mais en même temps, là où nous sommes, c'est très vert, c'est très verdoyant. Ils ont su garder quand même pas mal d'espace vert. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que là, maintenant, c'est des Toyota, c'est une certaine élite des salariés, c'est l'école blanche, c'est la recherche, c'est ceux qui sont sous la marque directement, c'est assez prestigieux. Mais en fait, le vrai boulot et la vraie exploitation, elle se fait au-delà un peu de ce paysage, quoi, un peu plus loin.
すごい走りでヨーロッパ縦断3200キロ、その優れた高速巡航性能を見事に実証、トヨタ1300。4日5日トヨタオートで発表展示会。
ジャポネホ
ー。真正面に現れたのはトヨタ記念病院。
Vous pouvez voir l'hôpital Toyota.
C'est quand même costaud cette histoire. Les gars, ils ont imposé à la ville qui s'appelait comment la ville ? Auparavant, la ville s'appelait
Colombo. À Colombo.
Colombo, comme Coulommiers. Colombo. La ville s'appelait Colombo. Et Toyota a imposé, dit non, ça s'appelle plus Colombo, maintenant ça s'appelle Toyota. Si bien que quand on dit l'hôpital de Toyota, c'est aussi bien l'hôpital de la ville de Toyota ou l'hôpital financé par Toyota, quoi. Ça crée une confusion formidable. D'autant que ça, c'est effectivement l'hôpital financé par Toyota. Pour Toyota.
Vous voyez, on voit tout ça du net maintenant, Colombo.
Ici, le grand parking Toyota.
C'est pas compliqué quand t'arrives ici, tu mets Toyota tous les 4 mots. 3-4 mots. Et Toyota. Là, c'est une. Tu vois, c'est un rosier Toyota. On est dans une Toyota. C'est un petit vent, comment dirais-je, Toyota, aujourd'hui. C'est un cerisier Toyota. Cette rue s'appelle la rue de l'hôpital Toyota Ouest. Donc on peut déduire qu'il y a la rue de Toyota Est, la rue de Toyota Nord. Là, sur le panneau central Toyota, qui nous indique qu'on va vers le centre-ville de Toyota.
Là, à partir d'ici, c'est vraiment le terrain de Toyota.
C'est l'usine, là.
Ici, autrefois, c'était la piste pour tester les voitures. Vous voyez les barbelés, les murs.
Maintenant, c'est plus là qu'on les teste, c'est les conducteurs qui les testent. Si les conducteurs américains se tuent...
Rondon Kumiai.
Voici le syndicat Toyota.
C'est donc le syndicat maison, c'est-à-dire le syndicat... Syndicat d'accompagnement, quoi. Qui est de la gestion de l'entreprise, mais qui n'est absolument pas... un syndicat qui s'oppose à l'entreprise.
Mais, l'autre chose, c'est qui ? L'autre chose, c'est qui ?
ce syndicat est l'ennemi des travailleurs. Sous ce pont, à partir de maintenant, tout est le terrain de Toyota. Le bâtiment que vous voyez en face est la maison mère Toyota.
Est-ce qu'il y a un hymne Toyota, une chanson que chantent les salariés de Toyota ou que tout le monde connaît ici?
Toyota, moi j'ai la Toyota.
Bien sûr, Toyota, notre Toyota.
Toyota City Office.
Chaka. Oui, c'est la chanson du Chaka, donc Cha la compagnie, Ka la chanson, la chanson de la compagnie.
Chaka.
Voilà comment on fait du sport chez Toyota. Chaque semaine, sur ce stade construit et géré par l'entreprise, les ouvriers, les employés, les cadres et même le PDG viennent pratiquer toutes les disciplines sportives.
TF1, 8 octobre 1977.
Au Japon, d'un côté, il y a les ouvriers employés dans les petites entreprises de sous-traitance. Et très souvent, ces oubliés de la croissance connaissent des conditions de travail très difficiles. Or, ils sont plus de 7 millions. Et pour la deuxième puissance économique mondiale, ils représentent un point noir. De l'autre côté, il y a aussi les ouvriers employés dans les grandes sociétés. Pour eux, les conditions de travail sont meilleures, plus décontractées.
Japonais, ho!
Uchi no Hiroko desu.
Uchi no Hiroko.
40 desu.
Vous avez 40 ans. D'accord, 2 enfants. Et là, aujourd'hui, depuis des années, depuis 7 ans, Vous vous battez à la fois pour faire reconnaître ce qui est arrivé à votre mari, ce que vous allez nous raconter, et aussi pour que ceux qui sont dans la même situation puissent se battre. Autour d'un mot japonais qui n'est pas sans écho en France, qu'on appelle kaloshi. Qu'est-ce que c'est kaloshi?
Ah non... 働きすぎて仕事が大変で亡くなってしまうことです。
C'est quelqu'un qui meurt parce qu'il a trop travaillé.
はい、あの過労死は二つ種類があって、結果的にはその頭の血管が切れたりとか心臓が止まったりという、まあ、病気として片付けられてしまう時は
Il y a deux types de kaloshi. Dans le premier cas, la mort est due à une maladie telle que des ruptures d'anévrisme, une crise cardiaque.
もう一つは心が病気になって自殺をしてしまうという kaloshi もあります。
Et le deuxième type de kaloshi est plus sur le côté mental.Et les personnes se suicident.
C'est ça. Plus par le stress, et à ce moment-là, des troubles mentaux qui poussent au suicide. Vous, est-ce que... c'est difficile de vous demander de ce qui est arrivé à votre mari. Quand est-ce qu'il avait commencé à travailler chez Toyota?
高校卒業してすぐに入ったので18ですね。
Juste après le lycée, donc à 18 ans.
彼は豊田市で生まれました。彼のお父さんも豊田マンで、で彼のお母さんのお父さんも豊田マンだったんです。
ち
Tout d'abord, il était né à Toyota. Son père travaillait chez Toyota. Son grand-père travaillait chez Toyota. Et le père de sa mère travaillait aussi chez Toyota.
ですから彼は好きでトヨタ自動車に入ったんですね。
Il aimait vraiment Toyota et c'est pour et les voitures, c'est pour ça qu'il est rentré dans cette compagnie.
Lui, il était col bleu.
Ça bleu color です。はい。
Bleu color.
Voilà une petite famille heureuse, une très belle femme, Shino Hiroko. Des photos de la famille, des enfants, voilà. Et puis la photo d'un homme jeune souriant dans un cadre. Et c'est cet homme-là qui est Karoshi, c'est-à-dire on peut traduire par mort d'épuisement. Ce que ce reportage on aurait pu le faire à chez Peugeot, à Sochaux, avec Christian Corrouge, notre ami Christian Corrouge. On aurait pu le faire à Detroit, chez General Motors. Là, c'est parce qu'on est au Japon. Et on se trouve avec cette forme de harcèlement et de pression sur les salariés. Beaucoup plus perverse que ce que pouvait être la pression sur les corps au temps des temps modernes incarnés par Chaplin. Aujourd'hui au Japon, on se demande plus ce que fut le prix du miracle et on prie pour le retour du miracle à n'importe quel prix. Et n'importe quel prix, c'est le prix que payent les salariés, souvent sans le dire, parce qu'évidemment l'entreprise ne le reconnaît pas, et souvent les familles préfèrent cacher le drame. On est au Japon, il y a des problèmes de la face, vous savez, on ne dit pas les choses directement. Si bien que c'est difficile d'avoir des statistiques précises, mais c'est pas difficile du tout d'avoir des témoignages comme celui-là. La différence, c'est que cette femme, Oshino Hiroko, a décidé, elle, de parler et de lutter. Quand on est chez Toyota comme ça, comme lui, on est employé à vie. Il était sûr de sa carrière jusqu'à la fin de ses jours quand il a commencé.
そうですね。このあたりだとトヨタに入れば一生保証されるというか、安心できるというふうに言われてます。
Oui, surtout dans cette région, rentrer chez Toyota, c'était un salaire à vie.Et une sécurité à vie, c'est ce que nous disions.
Donc c'était une bonne vie.
そうですね。その時は良かったんですけど、結婚をする直前に夜勤の時間が変わったんですね。それがちょっと大変でした。
Oui.Jusqu'à à peu près un tout petit peu avant notre mariage, c'était très bien. Et puis, un peu avant notre mariage, ses horaires de travail ont changé.
で、ゆっくりする時間もないまま、ご飯食べてお風呂に入って、もう9時には寝なくちゃいけない。
Nous avions à peine le temps de passer un moment ensemble qu'il devait prendre son bain et aller au lit.
Donc, 私は彼を夕方起こすために夕方というか昼過ぎに起こすために会社からモーニングコールをかけてで夜は帰ってもまだ彼はいない
Je l'appelais du bureau pour le réveiller pour qu'il ne rate pas son heure de réveil de l'après-midi et puis moi quand je rentrais du travailBien sûr, comme il terminait une heure du matin, je rentrais le soir à la maison, il n'y avait personne.
夜中の1時が定時だと、残業しなくても
帰ってくるのが夜中の2時とかで、残業したら3時とか4時とか、もう完全に家族とすれ違う生活になってしまったんです。
Terminer à 1h du matin, ça veut dire au mieux arriver vers 2h chez soi, mais dans son cas il y avait souvent des heures supplémentaires, donc ça veut dire 3 ou 4 heures du matin. Donc avec ces nouveaux horaires, nous n'avions plus du tout de vie de famille commune.
最後の1週間は夜勤だったんですけど、夜中の1時が定時なのに、家に帰ってくるのは6時半とか7時とかで、家族の朝ごはんと同じぐらいの時間になってしまって、もう本当に疲れてました。
La dernière semaine de sa vie, il était du soir. Normalement, il aurait dû rentrer vers 1h du matin. Il rentrait à 6h30, 7h, à l'heure où nous, la famille, on prenait le petit déjeuner. On voyait qu'il était fatigué.
Donc, il avait fait des heures supplémentaires toute l'année.
Oui, des heures supplémentaires.
Et il ne pouvait pas refuser de les faire.
隣に上司もいたので、一緒に仕事をしているから先には帰れないですね。
Non, ce n'est pas possible. Il travaillait, il avait un supérieur. Tant que son supérieur ne rentrait pas, lui-même ne pouvait pas rentrer.
夫が倒れた時間も明け方の4時半ぐらいだったんですけど、上司の隣で椅子から落ちて倒れました。
Et d'ailleurs, mon mari s'est écroulé à 4h30 du matin. Son supérieur direct était juste assis à côté de lui.
De quoi est-il mort?
突然心臓が止まったんです。医者も原因はわからないと。
Les médecins n'ont jamais su dire. En tout cas, son cœur s'est arrêté d'un seul coup.
Il avait quel âge?
30歳です。
30 ans.
子供は1歳と3歳の時でした。
Mes enfants avaient 3 et 1 ans.
Qu'ont dit les médecins? Est-ce que les médecins ont reconnu qu'il y avait un lien entre sa mort et le surmenage?
医者は仕事人がどうとかは言えないそうです。単純に亡くなった体を見ての診断しかできないから、過労死っていうのは病気の名前ではないですからね。
Paraît-il que les médecins ne peuvent pas mettre sur leuracte de décès mort par surmenage, puisque ce n'est pas une maladie réelle. Donc, ils ne peuvent mettre que les faits, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils constatent, c'est-à-dire l'arrêt du cœur.
Mais pourtant, il y a des syndicats chez Toyota.
労働組合はありますけれども、会社とほとんど一体になって動く組合で、主に賃金アップの交渉しかしてないような気がします。
Il y a un syndicat chez Toyota, mais il travaille pratiquement main dans la main avec Toyota. Il a juste un rôle négociateur de salaire.
だから、夫も組合の一員でしたし、そのグループの中で組合の活動もしてましたけど、でも亡くなってから組合は私を助けてはくれませんでした。
Par exemple, mon mari était membre de ce syndicat. Il y a participé et après sa mort, pensez-vous qu'un jour il m'aurait aidé? Jamais.
だから私が協力してくださいっていうふうに言った時も、個人のことには関与しないと。
Et quand J'ai été les voir en disant « Aidez-moi ». Ils m'ont dit « Nous ne nous occupons pas des cas particuliers. »
Alors, comment vous êtes pris pour vous battre contre Toyota ?
Il n'y a pas de... まずは夫の努力を認めてあげたいっていうその心それから子供たちにパパは頑張ったんだよっていうことを言ってあげたい
Disons que tout d'abord je tenais à ce que soit reconnu l'effort de mon mari pour cette société Et la deuxième chose, je voulais que mes enfants sachent qui avait été leur père.
それで、最初会社が、組合は協力してくれなかったんですけど、人事部の人を一人、窓口としてつけてくださって、その人は割と協力的だったんです。一緒に仕事の内容を調べ始めました。
Comme je vous l'ai dit, le syndicat ne m'a pas aidé du tout. Par contre, au niveau des ressources humaines, il y avait une personne qui a bien voulu m'aider.
それで、何時に家を出て、何時に帰ってきたかっていうことから、労働時間を計算をして。
Il m'a aidé à établir les preuves de à quelle heure il avait été.Quitter sa maison, à quelle heure il avait travaillé, à quelle heure il pouvait rentrer chez lui, et donc prouver ses heures de travail.
そしたら、亡くなる前1ヶ月の残業時間が144時間あったんです。
Là, vous avez établi.
Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que dans le mois qui a précédé sa mort,Il avait effectué 144 heures supplémentaires.
144 heures supplémentaires.
So this.
Oui, 144 heures supplémentaires.
Non, non, c'est pas possible parce que chaque jour, il faisait combien d'heures supplémentaires par jour?
この時間、例えば11時間のところだと8時間引くと3時間。25
fois. Voilà, ça sent, ici c'est le tableau qui dit le nombre d'heures où il a travaillé par jour. Donc là, nous voyons 11h25, 12h20. Donc il faut retirer à chaque fois 8. Donc si par exemple.
Oui, d'accord, je comprends. C'est-à-dire qu'il faisait des journées de 11h. De 12h, de 11h, de 11h, de 11h, de 12h, de 12h, de 12h. De 12h, de 13h, etc. Et même de 19h. Là, il y a une journée de 19h. Ça fait 11h supplémentaires. Évidemment, c'est quelqu'un qui littéralement était en train de se tuer au travail. Ça s'appelle se tuer au travail.Mais est-ce qu'il vous en parlait de ça? Est-ce qu'il vous parlait de sa souffrance?
生活がすれ違いになってしまうので、私も子育てがとても大変な時期だったから、あまりきちんと話す時間もないんですよね。でも友達には話してました。
Non, parce que nous avions une vie...où nous nous croisions tellement et moi-même j'étais tellement prise aussi pour élever les enfants que nous n'avons pas eu trop le temps d'en parler mais j'ai appris qu'il en avait parlé à des copains
avec toutes ces heures là, il gagnait bien sa vie il devait avoir un bon salaire
全部お金が払われるわけではないです
non puisqueque toutes les heures ne sont pas payées.
Vous êtes en train de dire que les heures supplémentaires n'étaient pas payées, c'est-à-dire que tout ça, il était payé sur une journée de 8 heures, et que les heures supplémentaires, il devait les faire sans être payé du tout.
そうですね。不払い残業ですね。
C'est ce que nous appelons les heures supplémentaires qui ne sont pas payées.
Aujourd'hui, vous en êtes où alors de cette lutte? Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui?
Imawa hokani mo saiban de gambatteru nakama ga ite karoshi kazoku no kai toyu kai ga arimasu node soko de shien no katsudou wo shite imasu.
Aujourd'hui, je fais partie d'une association de famille dont un des membres est mort d'épuisement au travail de Kaloshi. Je les aide dans leur démarche pour aller au tribunal.
D'accord.
Mon
mari m'a laissé deux enfants et donc, bien sûr, je dois les élever, je dois être joyeuse, je dois être devant eux, faire en sorte qu'ils deviennent des adultes. C'est vrai que c'est la vie.
Arigato.
Talking about dangerous. Talking about dangerous. Olha de bebida quente ou bebida gelada.
Oshino, Hiroko, c'est le nom de cette femme qu'on vient d'entendre. C'était un reportage avec Guy Ventil. On trouve la deuxième partie de ce reportage demain à Toyota. Traduction Sanaï Lefebvre. Merci à Satoshi Kamata, Toguchi Masashi, Jean-François Sabouret et aussi Martine Bullard. Rappelle encore le titre du bouquin de Satoshi Kamata, Toyota, l'usine du désespoir. C'était publié chez Demopolis en 2008. Merci aussi à Colin Kobayashi. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Renaud Mahé et Gilles Gaillard. Colin Guen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot et Céline Rouzet. Attend vos messages au répondeur de la base jusqu'au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Luc, Nat, vous êtes comment?
Prête.
Pareil.
Ok, on lance un nouveau message d'EDF Pro, mise en relation avec des partenaires. Luc, t'es bon?
Au top.
Top.
Quand on veut améliorer l'éclairage intérieur de son local et le rendre plus économe en énergie, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Alors EDF Pro vous conseille et vous propose une mise en relation avec des partenaires qualifiés pour réaliser vos travaux.
Et numéro?
Renseignez-vous au 0810 333 776. EDF, changez l'énergie ensemble.
Mention?
Prix d'un appel local, sauf sur coût imposé par certains opérateurs, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ok, très précis, très EDF Pro.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bois, salut.
La gare Montparnasse à Paris paralysée cet après-midi par une manifestation d'infirmiers anesthésistes. Ils étaient entre 1200 et 3000 selon les sources à manifester ce matin dans les rues de Paris pour défendre leur métier et réclamer un entretien avec le directeur de cabinet de la ministre de la Santé, ce qui leur a été refusé. Ils ont donc envahi la gare. Vous êtes sur place, Nasser Madji. Le trafic des trains est très perturbé.
Ah ben là, la gare est complètement bloquée, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des centaines de passagers qui attendent pour l'instant patiemment aux abords des quais que la situation se débloque. Mais on en est loin, hein, puisque sur les voies, vous le disiez, à quelques centaines de mètres de là où je me trouve à l'instant, il y a au moins 2000 infirmiers anesthésistes, pratiquement tous en blouse bleue, qui refusent de quitter les lieux. Ça fait 2 mois, disent-ils, qu'on est en grève. On devait être reçu au ministère de la Santé. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Eh bien, on a donc décidé spontanément d'envahir les voies pour être médiatisés. Ces infirmiers anesthésistes, enfin, ils craignent que leur diplôme soit dévalorisé, que leur métier n'évolue pas défavorablement. Alors ils ont donc décidé ce coup de colère. Ils risquent d'être écoutés puisque manifestement une délégation a enfin été reçue cet après-midi. Ils sont venus d'un peu partout en France et pour l'instant, malgré la présence de nombreux CRS, l'ambiance est tout à fait détendue.
Merci Nasser Madji. Donc si vous avez prévu de prendre un train, la gare Montparnasse à Paris est actuellement totalement bloquée. Cela n'a pas traîné. Ali Vakilirad est en vol direction Téhéran. À sa sortie de prison à Poissy ce matin, l'assassin de l'ex-premier ministre iranien Shapour Bakhtiar a directement rejoint l'aéroport d'Orly. Après 19 ans de détention, il a donc été libéré et expulsé de France. Une décision express prise hier par le ministère de l'Intérieur et qui fait suite, selon toute vraisemblance, au retour en France de Clotilde Reiss. Ali Vakilirad était libérable depuis un an, mais la décision aurait pu être retardée en attendant que se règle le cas de la jeune universitaire française. À Cannes, en présentant son film Copie conforme, le réalisateur iranien Abbas Kiarostami a une nouvelle fois demandé la libération de son compatriote Jafar Panahi, emprisonné à Téhéran. Je ne comprends pas comment un film peut être considéré comme un crime, a-t-il dit en se disant profondément attristé. Un coup de filet dans les milieux islamistes en France aurait permis de déjouer l'évasion programmée d'Ali Belkacem, cet Algérien condamné à la perpétuité pour l'attentat du RER parisien station Musée d'Orsay en 95. 14 personnes ont été arrêtées, des armes et des espèces découvertes lors des perquisitions. Cet attentat avait fait 26 blessés. Un joli coup pour les douanes du Havre. Elles ont saisi quelques 160 000 déodorants de luxe contrefaits dans plusieurs conteneurs en provenance de Turquie. Des déodorants Armani, Lacoste, Hugo Boss ou encore Kenzo qui devaient être écoulés en Haïti, Mozambique ou au Ghana. Pour les entreprises concernées, cela correspondait à l'équivalent de 4,5 millions d'euros de marchandises. Il est 14h03 sur France Inter.
Service public, Isabelle Giordano.
On les accuse d'être absents de certains quartiers, d'avoir démissionné, voire même d'être démantelés. Comment les services publics ont-ils décidé de renouer avec la proximité ? Je vous propose demain dans Service Public un gros plan sur une initiative très originale. On en parle tous ensemble et on en débat sur franceinter.com.
Service public du lundi au vendredi à 10h.
France Inter.
La différence.
Et on me fait remarquer qu'il est bien 16h03 sur France Inter. On a rendez-vous avec Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer les contemporains de Frédéric Chopin. Lui, on célèbre son anniversaire. Il est né en 1810, mais autour de lui, il y avait du monde, bien sûr. Par exemple, Muzio Clementi, fameux pianiste, qui a été le professeur de John Field. John Field a composé des nocturnes qui, paraît-il, ont inspiré Frédéric Chopin, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, alors voici une des racines du génie de Chopin, Clementi, rondo d'une sonate en do majeur.
Thank you.
Rondo de la sonate en do majeur, opus 25 numéro 1 de Muzio Clementi, fameux rival de Mozart, interprété par Howard Shelley. Mais il a été contemporain à un moment donné de Chopin, puisqu'il est mort en 1832. Alors Chopin aurait pu le connaître, on ne sait pas si ça s'est fait. Beethoven aussi a été contemporain. Il est né 40 ans avant Frédéric Chopin, en 1770. Mais enfin, il était bien vivant à la naissance du maître polonais. Et lui aussi avait quelque chose de révolutionnaire. On connaît la fameuse étude qui porte ce titre chez Frédéric Chopin. Quand il a appris la chute de Varsovie, écrasée par les Russes, il aurait